écologie tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous sommes jeudi, il est 20h30, vous retrouvez Zoom Écologie. Et ce soir, vous êtes avec les radioactifs, et même plutôt les radioactives, puisque cette émission vous est présentée par Cézine et Céline. Ce soir, c'est une émission consacrée au projet d'enfouissement des déchets nucléaires radioactifs dans la commune de Bure, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Les déchets nucléaires, donc, c'est une question occulte, occultée depuis le choix même du développement du nucléaire, car la seule position politique sensée en la matière n'aurait-elle pas dû être celle adoptée par la Suède en 1977, à savoir de ne pas développer de filière nucléaire tant que la question des déchets n'aurait pas reçu de solution scientifique sûre. Mais en France, on a développé le nucléaire, et pas qu'un peu, puisque la France est le pays le plus nucléarisé au monde, avec plus de 75% de son électricité d'origine nucléaire. Et quant aux déchets, c'est un problème toujours sans solution et qui s'aggrave chaque jour. Depuis le départ, on s'est ingénié à ne pas les voir et à les oublier. Et pour cela, on en a confié la gestion au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique, qui était en même temps le promoteur du nucléaire. Vive les conflits d'intérêts. Les déchets radioactifs ont fait l'objet de contestations dès les années 1960, notamment avec le projet farfelu d'immersion des déchets en mer, qui a alors indigné un bon nombre de gens. Depuis, ils sont devenus un problème public majeur, fortement contesté, lorsque l'ANDRA, donc l'Agence de gestion des déchets du CEA, a voulu en entreprendre l'enfouissement à la fin des années 80. Les opérations de prospection qui ont été menées alors sur 4 sites ont suscité de violentes oppositions de la part des habitants et des élus. Après un moratoire en 1990, c'est un dispositif beaucoup plus souterrain et progressif qui a été adopté pour faire accepter cet enfouissement des déchets, et cette fois exclusivement à Bure, une petite commune à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne donc. Et pourquoi uniquement à Bure? Puisque la contestation sur les autres sites avait été trop forte. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus d'enfouissement mais de stockage. On ne parle plus de solution au problème des déchets, mais de recherche, de laboratoire souterrain et de science. Car on sait bien, la science avec un grand S, c'est forcément moins contestable. Et pareillement, c'est dans les années 90 qu'on a substitué au terme de déchets, celui de combustibles usés, voire de matières valorisables. On ne parle plus non plus de retraitement, qui avait une connotation militaire, mais de recyclage. Voilà, donc des mots euphoriques qui sont indispensables aujourd'hui pour gérer les déchets nucléaires. Car avec eux, c'est les gens, l'opinion publique, les mauvais esprits contestataires qu'il faut gérer. Et c'est toujours au début de la décennie 90 que l'ANDRA est devenue une agence autonome du CEA et se réclame depuis comme un organisme indépendant vis-à-vis de l'État et de l'industrie nucléaire. Donc à Bure, le projet avance sous couvert de recherches scientifiques. Et l'ANDRA prépare minutieusement le terrain depuis la loi Bataille de 1991. Un premier débat public sur les déchets radioactifs a été organisé en 2005-2006. C'est à cette occasion-là, l'ANDRA a pu se faire un inventaire des mots et des concepts tendance chez le public. Et notamment, ce qui est apparu, c'est celui de réversibilité, qui a été tout de suite récupéré pour faire accepter ce projet d'enfouissement. Et maintenant, on y est, puisque l'ANDRA vient de saisir la Commission nationale du débat public pour demander l'organisation d'un débat sur la réalisation de son projet d'enfouissement qui s'appelle CIGEO, c'est-à-dire Centre industriel de stockage géologique pour le stockage réversible profond de déchets radioactifs en Meuse-Haute-Marne. Donc après avoir arrosé toute la région, financé toute la vie locale, des grandes manifestations culturelles aux associations de protection de l'environnement appelé à se taire ou à disparaître, l'ANDRA demande donc à la population de se prononcer en toute objectivité. Et à ce sujet, voici ce que nous dit le document par lequel l'ANDRA saisit la Commission nationale du débat public. Donc je cite l'ANDRA. L'ANDRA souhaite en particulier faire comprendre le choix du stockage profond pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs, échanger sur l'insertion locale de CIGEO en Meuse-Haute-Marne, implantation, développement économique, et préparer la future loi qui fixera les conditions de réversibilité du stockage. Plus globalement, le débat public permettra à l'État d'identifier les conditions nécessaires à l'acceptation du projet CIGEO. C'est clair ce à quoi doit servir ce débat public ? Donc ce soir, nous reviendrons dans la seconde partie de cette émission sur ce que l'on peut attendre de ce débat public avec Camille Saïsset, qui est journaliste scientifique spécialisée dans les questions d'environnement. Mais tout de suite, nous écoutons Justine, que nous avons rencontrée en juillet à Notre-Dame-des-Landes, au Forum contre les grands projets inutiles imposés. Car face à cette stratégie de longue haleine de l'ANDRA, c'est aussi une nouvelle forme de résistance qui se construit à la maison de Bure Zone Libre, dont Justine est une habitante.
J'ai été interpellée par ton stand sur Bure, parce que je me suis promenée dans la région de Bure il n'y a pas longtemps, et j'étais notamment à Bar-le-Duc, et c'est une petite ville très charmante. Et ils sont d'ailleurs en train de refaire les pavés, ils mettent des pavés en pierre, c'est splendide, le petit pont, la ville haute et tout. Et par ailleurs, j'avais vaguement entendu parler de Bure comme projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Ouais. Et à Bar-le-Duc, par contre, c'était assez silencieux sur la question, quoi. C'était pas du tout visible, quoi.
Oui, du coup, effectivement, dans la région, il y a beaucoup de villages qui sont très jolis, avec des façades de maisons rénovées, de très beaux lampadaires. À Bure, on a une salle des fêtes qui a coûté 1 million d'euros. C'est un village de 92 habitants. Et en fait, pour résumer, c'est très très joli au-dessus, mais ce qui se prépare en dessous, c'est un peu la cata. On est face à un projet d'enfouissement de déchets radioactifs haute activité mi-longue et moyenne activité mi-longue à 500 mètres sous terre. Donc les derniers chiffres qu'on a eus, c'est un volume de 100 000 mètres cubes de déchets qui seraient enfouis à Bure. Après, il faut savoir que ça évolue, évidemment, ça augmente un peu d'année en année. Tu parlais de Bar-le-Duc. À Bar-le-Duc, il y a un festival Renaissance, qui est un festival culturel très sympa, avec beaucoup de, voilà, beaucoup de petits spectacles, de petits concerts. Ça fait un peu une respiration culturelle dans la région. C'est un festival qui est financé aussi par l'argent du labo.
En fait, l'argent de ?
L'argent du labo. En fait, le labo, c'est le laboratoire de l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui est l'agence qui gère le laboratoire de Bure, qui gère aussi le centre de stockage de la Manche. Donc pour avoir un petit peu l'historique du CSM, on peut aller sur internet, sur le site de l'Acro. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à voir sur la gestion de ce site, où l'ANDRA a fait la preuve de son incompétence et de son manque d'indépendance. Du coup, voilà, à Bure, on est face à ça. On a ce problème de l'argent qui coule à flot. On a eu depuis 1995 340 millions d'euros qui ont été distribués via les groupements d'intérêt public en Meuse et en Haute-Marne. Donc c'est de l'argent qui va être distribué aux entreprises, aux associations locales. Voilà, on arrose un petit peu tout le monde. Et le résultat, c'est qu'on a eu une espèce d'économie artificielle sous perfusion qui s'écoulerait du jour au lendemain si ces fonds-là étaient retirés. Après, qu'est-ce que ça donne au niveau des personnes ? Ben, ça donne des gens qui sont opposés au projet, mais qui y ont un peu les mains liées par leur dépendance financière. Par exemple, quand on va faire imprimer des affiches pour le festival, on fait un festival contre le projet Bure tous les ans, on va faire imprimer les affiches et là l'imprimeur nous dit si c'est contre le projet de Bure, je ne vous fais pas payer. Par contre, vous ne le dites pas parce que 30% de mon budget vient de l'ANDRA. Donc il y a l'Égypte, mais il n'y a pas que l'Égypte. Il y a aussi à Bure, on reçoit tous les ans un bon d'achat pour acheter des fleurs, pour mettre devant les maisons. Si on veut faire rénover sa façade, on peut demander une subvention. Ça sera subventionné à 80% par l'argent qui est distribué pour faire passer la pilule et faire accepter le projet. Donc voilà, les circonstances aujourd'hui, c'est ça. On est en lutte depuis les années 90. Le labo est implanté depuis 99. Et pour l'instant, on est toujours face à un projet. C'est-à-dire que ce qu'on a en face de nous, c'est un laboratoire de recherche souterrain. Et n'est pas un site d'enfouissement à proprement parler. C'est-à-dire que le décret officiel d'autorisation de création sera donné en 2016.
Donc de création du site
De création du site d'enfouissement, ouais. Avec un début des travaux en 2017 et une mise en fonctionnement du site en 2025.
Et pour l'instant, les terres, elles appartiennent à qui ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas de déchets à Bure pour le moment. Et au niveau foncier, on est face à une stratégie de l'Andra qui a assez bien fonctionné. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas d'arriver et de lancer des expropriations. C'était, on arrive, on rachète à prix d'or. Il y a une convention qui a été passée entre l'Andra et la SAFER. Donc la SAFER préempte les terrains. Ensuite, elle les laisse à disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent les utiliser, continuer à travailler dessus. Et ce, jusqu'à ce que l'Andra les récupère pour les besoins de son activité. Donc ça, quand on lit la convention, c'est écrit noir sur blanc. Il y a aussi une espèce de jeu, un peu de monopoly, avec l'Andra qui rachète des terres qui sont très éloignées du site, qui vont servir ensuite de monnaie d'échange pour échanger des terrains. Alors s'il y a un agriculteur, par exemple, qui va bientôt être en retraite, qui est quelqu'un de qui on était très proche, on l'est toujours, lui refusait de vendre, et puis son fils reprend l'exploitation, lui il est retraité. Son fiston, il vit à Bar-le-Duc, il a des terres près de Bar-le-Duc, donc aller cultiver à côté de Bure, ça ne l'arrangeait pas trop, c'est une petite distance. Et du coup, il y a eu un jeu d'échange, le fiston a récupéré des terres à proximité de celles qu'il exploite déjà, et le copain en question, l'agriculteur en question, a vendu ces terres qui sont sur la zone directement concernée par l'enfouissement à l'endroit.
D'accord.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on lui saute dessus? Après, concrètement, c'est ça qui s'est passé. Il y a une période un peu de tension. Et voilà. Mais nous, à Bézédal, dans la maison de résistance, on reçoit en majorité des gens qui...
Attends,
mais
peut-être si tu peux nous dire un peu plus que c'est
ça,
que la maison de Bure.
Mais pour finir, quand on vient de loin... L'idée, c'est quand même pas d'aller taper sur les locaux. Notre cible, c'est l'Andra, l'industrie nucléaire et l'État nucléaire. Donc voilà, c'est assez compliqué de savoir comment faire face à ça, comment réagir face à ça. Et du coup, pour expliquer ce qu'est la Maison de Bure, en fait, il y a plusieurs collectifs locaux qui se mobilisent contre l'enfouissement. Il y en a en Meuse, il y en a en Haute-Marne. Il y en a qui sont beaucoup plus locaux, sur le canton, pour le château, etc. Et nous, on est un collectif qui s'appelle Bure Zone Libre, et l'objectif premier était de faire vivre un lieu collectif dans lequel on pourrait accueillir des personnes qui viennent de loin pour s'opposer à l'enfouissement. Parce qu'on est dans une zone qui est peu peuplée, il n'y a pas grand monde. C'est une lutte qui dure depuis les années 90. Et du coup, pour les locaux, le fait de voir qu'il y a des personnes qui se relaient, qui viennent régulièrement, qui lâchent pas l'affaire depuis 2004. Donc 2004, c'est l'année où on a récupéré la maison. C'est très important parce que ça montre qu'il y a un soutien, qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser, qu'il y a toujours une présence. On est à côté du labo, dans le même village. Et du coup, symboliquement, c'est important. En pratique, ça permet d'accueillir des gens qui viennent de loin et qui puissent rester sur le site, qui puissent prendre de l'info, voir comment se passe le quotidien là-bas, parce que c'est quand même très particulier quand on parle de ces questions d'argent, etc. C'est vrai, quand on le vit au quotidien, c'est marquant. Et puis après, ça permet aussi d'avoir du monde qui aide à organiser des actions, qui aide à faire de l'info, à rénover la maison, parce qu'on est encore en train de la rénover depuis 2004. Bon, là, c'est...
Vous avez le projet d'accueillir des scolaires, c'est ça ?
Oui, en fait, on accueille déjà des scolaires, parce que notre voisin, le labo de l'Andra, a eu la bonne idée de construire une salle d'exposition avec... Il y a une exposition permanente sur l'enfouissement, les travaux de l'Andra, etc. Et puis ils font des expositions temporaires. On a eu une expo sur les fossiles. La dernière qu'ils ont sortie, c'est la radioactivité de Homer à Oppenheimer. Et voilà, ça leur permet de, d'inviter les scolaires, d'inviter les gens du coin en dehors des moments des portes ouvertes par exemple, et de diffuser leur propagande. Il n'y a pas que ce moyen-là, ils ont aussi un journal qui est distribué régulièrement dans les boîtes aux lettres, on retrouve toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire banalisation des déchets, banalisation de la radioactivité. Donc on va t'expliquer que la radioactivité c'est naturel, ça c'est un thème qui est vraiment récurrent, que tu retrouves sur le site internet, dans le journal, dans les expos, alors ils font aussi des jeux pour les enfants, il y a le jeu des incollables, spécial gestion des déchets radioactifs. Ça, c'est un monument de propagande. Du coup, tout ça, c'est très intéressant à voir. Et nous, en face, on essaye de récupérer ce public-là pour lui donner une autre information. Donc, ça va être en se déplaçant aux journées portes ouvertes, en allant intervenir pendant les conférences des scientifiques de l'ANDRA. Alors, les conférences, c'est souvent des gens qui se présentent comme des scientifiques, ils ont la blouse blanche, ils ont les lunettes et tout ça. Mais quand tu regardes leur CV, c'est des communicants, quoi. C'est pas du tout des scientifiques. Donc l'idée, c'est d'être présent dans ces moments-là pour justement dénoncer les mensonges, tout simplement, de l'ANDRA. Par rapport aux scolaires, on est assez gênés parce que on ne peut pas les recevoir dans la maison, c'est des gens qui sont mineurs, donc on ne peut pas leur faire signer un bulletin d'adhésion pour qu'ils puissent rentrer dans la maison tatati. Pourquoi c'est embêtant? Tout simplement parce que le maire est très favorable au projet d'enfouissement, ça lui a permis de construire sa salle des fêtes à 1 million d'euros. Il imagine que dans 10 ans, il y aura 2500 personnes qui vivront à Bure, que ça va créer des emplois, etc. etc. Et du coup, il nous a à l'œil, et si on fait rentrer des mineurs dans la maison, il nous saute sur le dos. Donc l'idée de cette salle, c'est d'avoir une salle habilitée à recevoir du public, dans laquelle on puisse accueillir ce public-là. C'est intéressant en particulier pour les scolaires. On a la chance d'avoir quelques profs dans la région qui travaillent avec nous, qui ramènent les gamins. Donc après 3 heures de bourrage de crâne au labo, ils arrivent chez nous, donc ils sont un peu moins réceptifs. Et en même temps, c'est super de voir ils ne sont pas dupes non plus. Et quand on discute avec eux, on voit très bien que des gamins de 12 ans, ils ont quand même des armes pour comprendre qu'on leur ouvre un petit peu le crâne. Donc ça, c'est chouette. Et voilà, je sais plus où j'en étais.
Peut-être si on peut revenir plus sur la question des déchets au niveau général, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en faire? Qu'est-ce que vous proposez comme alternative?
Ça, c'est la grande question. C'est la question qu'on nous pose souvent. Il va bien falloir en faire quelque chose. Alors effectivement, il faudra bien en faire quelque chose. La première question pour nous, c'est est-ce que tant qu'on produit des déchets, on est dans de bonnes conditions pour réfléchir à ce qu'on peut en faire de ceux qui existent, à ce qu'on peut faire de ceux qui existent déjà. Tant qu'on produit des déchets radioactifs, on a une pression financière, on a une pression qui va même au-delà de ça. Enfin, on a la pression de toute l'industrie nucléaire derrière et de tout l'État nucléaire. Donc concrètement, faire des travaux de recherche de manière indépendante sur cette question-là, dans un contexte comme celui-ci, c'est tout simplement impossible. On le voit à Bure avec les réactions de l'endroit, différentes expertises indépendantes qui sont faites de leur travail.
C'est-à-dire
Alors il y a eu par exemple un rapport d'un institut américain qui s'appelle IEER, qui est consultable à la maison de Bure, qui fait partie de notre bibliothèque de doc, et qui avait une conclusion qui était très très claire, c'était il est beaucoup trop tôt pour programmer un enfouissement à Bure. Il y avait un certain nombre de critiques qui étaient apportées par rapport à la démarche scientifique de l'ANDRA, etc. Et ce rapport, dont beaucoup d'associations locales pensaient que ça allait être un pavé dans la mare, il a été très vite oublié, mis au placard très rapidement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi un ingénieur qui s'appelle Bertrand Thuillier qui a travaillé sur les risques à court terme du projet en se basant uniquement sur les travaux que l'ANDRA a réalisés jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est pareil. c'est balayé d'un revers de main. Et de toute façon, on sait que l'enfouissement, il se fera à Bure ou à Bure. C'est le seul lieu dans lequel le labo a réussi à s'implanter, parce qu'il faut savoir que l'Andra a essayé de s'implanter dans beaucoup, beaucoup d'autres zones, d'autres sites. Mais les gens ont réagi très vite et ils ont réussi à se débarrasser de l'Andra.
Ça, c'est des projets qui sont apparus quand
Alors, à partir de 87, il y a une première vague de prospection, quatre zones qui sont retenues. Suite à des mobilisations très, très, très importantes et souvent très dures, il y a un moratoire qui a été mis en place par Rocard en 90, qui suspendait les travaux pour 10 ans. Ensuite, une loi qui est sortie en 91, la loi Bataille, qui change un peu de stratégie en disant bon, bah, maintenant on ne va plus parler de site d'enfouissement, on va parler de laboratoire de recherche souterrain. On met en place aussi à ce moment-là.
Donc on prépare le terrain, quoi.
Voilà, on prépare le terrain. Et puis, du coup, à partir des années 90, une deuxième vague de prospection, avec le même scénario au final qui se répète, c'est-à-dire des mobilisations et l'Andra qui se fait dégager manu militari de tous les endroits où elle a tenté de s'installer, sauf en Besançon-de-Marne. Voilà, on s'est retrouvés avec ce labo qui maintenant est là. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard. Ça veut dire qu'effectivement, si l'enfouissement se fait, il se fera à Bure. Nous, on espère qu'il ne se fera pas, qu'il ne se fera ni à Bure ni ailleurs.
Mais ce qui a l'air d'être mis en avant, c'est ce discours sur la réversibilité. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? C'est d'enfouir les déchets et qu'on puisse y ressortir
Bah, la réversibilité, c'est un peu, c'est assez rigolo. En gros, on a étudié un petit peu ce qui inquiétait les populations. On a eu un débat public en 95 dont les conclusions étaient assez claires. C'était que les gens ne voulaient pas de ce projet. Bon, évidemment, c'est un débat public, ça n'a aucune valeur contraignante. Donc, c'est passé à la trappe. Mais par contre, ça a permis à l'Andra de voir. À quels endroits ça bloquait, voilà, qu'est-ce qui fait peur. Et parmi ces points qui inquiètent les gens, il y a l'idée de la récupérabilité des colis, c'est-à-dire est-ce que, une fois que les colis seront enfouis, une fois qu'ils auront tous commencé à fuir, est-ce qu'on pourra les récupérer? Il y a une autre idée qui est de dire peut-être que dans l'avenir, on trouvera une solution satisfaisante pour la gestion de ces déchets. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourra aller les rechercher? Et du coup, on nous a sorti l'argument choc de la réversibilité. Alors la réversibilité, c'est pas la récupérabilité, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est réversible que ça veut dire qu'on pourra récupérer. Donc il y a une espèce de jeu sur les mots autour de ça. C'est pas très clair. Il y a eu un colloque qui a tenté de définir la notion de réversibilité. Ça peut être aussi la réversibilité des choix politiques. Pour certains pays ont retenu cette option-là. C'est-à-dire, nous, on décide aujourd'hui d'enfouir, mais il faut qu'on laisse la possibilité aux générations qui vont venir après nous de faire un autre choix. Donc, au final, ça revient à dire il faut que les générations futures puissent aller récupérer les colis. Bon, nous, à Bure, là, on attend un débat public en 2013 qui va porter justement sur la réversibilité. On est beaucoup de collectifs et d'associations à ne pas en attendre grand-chose, voire à rien en attendre du tout.
C'est un débat qui va se tenir où ?
C'est un peu comme si on nous demande. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. C'est pareil, ça sort au compte-gouttes. A priori, il y aura des réunions au niveau national un petit peu partout dans le pays. Nous, en local, on est divisé, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui veulent absolument participer au débat public parce qu'elles estiment que c'est un moment où on pourra développer nos arguments, où on pourra se faire entendre, etc. Et puis un certain nombre d'associations et de collectifs qui savent très bien qu'il n'y a rien à attendre du débat public, de toute façon, on sait que c'est une mascarade de plus, un moyen de dire on vous a donné la parole, on vous a écouté, mais ça ne changera absolument rien. Et du coup, Du coup, voilà, pour le débat public de 2013, il y aura des associations et des collectifs qui bloqueront les débats, et il y en a d'autres qui voudront intervenir. Bon, on a réussi à se mettre d'accord sur le fait que ceux qui bloqueront, bloqueront aussi les assos qui veulent entrer pour participer, et qu'en même temps, on resterait dans une logique de pas se pourrir mutuellement et de pas se dénoncer et de garder en tête que là on lutte contre le même projet.
Mais peut-être qu'effectivement ceux qui participent sortiront du débat selon les formes qu'il prend. Non ?
Oui, on verra. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où tu acceptes de te mettre à une table pour décider en gros si les fûts seront jaunes ou roses. Bon, on peut se poser des questions, et puis surtout on a déjà l'expérience du débat public de 95. Après oui, effectivement, y a des personnes qui tiennent beaucoup à ça, qui veulent pas mettre une croix dessus et qui pensent que c'est dommage de laisser passer cette occasion-là. Voilà, nous on pense que c'est pas une occasion de donner nos arguments.
C'était donc Justine de la maison de Bure Zone Libre. Nous la remercions pour cette interview et cette émission de Zoom Écologie continue.
Bonjour, vous êtes donc avec nous, les radioactifs. Moi, Céline, et à côté de moi,
Céline.
Et nous accueillons aujourd'hui donc Camille Saïssé.
Bonjour.
Bonjour Camille, et bienvenue et merci d'être avec nous, qui est journaliste scientifique spécialisé des questions environnementales, qui donc écrit régulièrement, entre autres, sur l'actu environnement, qui est une des rares journalistes, en effet, à suivre de façon permanente le dossier nucléaire et à avoir enquêté
autant que possible.
Autant que possible. Donc, à avoir enquêté longuement aussi à Bure à partir de 2000 ans déjà. Elle fait par ailleurs, ou a fait déjà partie par ailleurs, donc de plusieurs commissions particulières de débat public, notamment donc du débat public sur le terminal méthanier de Dunkerque, de suivi sur le projet d'interconnexion sud-sud de la ligne grande vitesse, et puis dernièrement donc un projet en cours qui est celui d'extension du port de Port-la-Nouvelle
près de Narbonne. Oui,
voilà. Par ailleurs, Camille Saïssé est auteur avec Ben Kramer donc d'un livre qui s'intitule La descente aux enfers nucléaires, 1000 milliards de becquerels dans la terre de Bure, paru en 2004 aux éditions L'Esprit Frappeur.
C'est ça.
Peut-être que si vous pouviez commencer par nous dire quelques mots sur le contexte de préparation et de publication de ce livre qui a fait l'objet bien sûr d'une longue enquête. Ça me permettrait de rebondir par la suite sur les passionnantes questions qui nous intéressent dans ces enfers nucléaires.
Alors c'est effectivement une enquête qu'on a menée donc avec Ben Kramer, mon confrère, qui lui est polémologue et donc a une vision stratégique, je dirais, des enjeux. Moi, scientifique et tout simplement humain, je dirais. Et ce travail nous a conduit donc à publier ce livre en 2004 avec différents chapitres qui concernent un accident mortel qui a conduit à une condamnation pour homicide involontaire de Bouygues les années suivantes, et un autre chapitre par exemple aussi sur les aspects géographiques où on voit comment cette implantation de ce qui est pour l'instant un laboratoire, et ce depuis 1999 à Bure, en Meuse, à la frontière avec la Haute-Marne, s'inscrit tout à fait dans le paysage local, c'est-à-dire qu'il est à 60 km du site de Soulaine, où l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, a déjà deux sites de stockage de déchets, non pas de haute activité et moyenne activité à vie longue, pardon, comme ce qui se destine à la région de Bure, mais de plus faible activité et d'autres projets d'ailleurs du côté de Soulaine. C'est aussi tout près de Valduc, qui est un site militaire là du côté de Dijon, Soulaine étant dans l'Aube, près de Troyes. Et voilà, ou encore de la centrale de Cattenom en allant vers le Luxembourg. C'est une enquête qu'on a menée, qui n'a pas du tout ou très peu été médiatisée, mais qui fait qu'effectivement, il m'importe de continuer à travailler sur le sujet depuis.
Voilà. D'accord. Et alors, depuis cette enquête, comment est-ce que vous percevez l'évolution de la situation à Bure ?
Alors, avant de vous répondre là-dessus, si je peux me permettre, excusez-moi, mais étant moi-même journaliste, effectivement, peut-être que du coup, je ne vais pas répondre directement aux questions, mais ce n'est pas du tout de la stratégie. C'est simplement. Voilà, c'est simplement pour dire qu'effectivement, étant moi-même ayant été missionnée, donc comme Cézine, vous le rappeliez, pour la troisième fois, pardon, là, dans une commission particulière de débat public, donc de débat public porté par la Commission nationale du débat public. Il était bien évident que, vu le travail ou la connaissance que je peux avoir de ce qui se passe du côté de Bure, je n'allais pas faire partie de la commission particulière du débat public sur le projet de stockage souterrain de déchets nucléaires, dont le président vient d'être nommé le 7 novembre 2012, et qui est en train, le président donc de cette commission particulière est en train très certainement de nommer les membres qui vont l'accompagner, et à partir du 7 décembre, si cette commission particulière est validée par la Commission nationale du débat public, à ce moment-là, ils commenceront leur travail d'aller à la rencontre des différents acteurs de la préparation du débat public avant qu'il ne commence. Voilà.
D'accord, merci.
Et donc, votre question, c'était de savoir comment est-ce que ça avait évolué ?
Oui, et notamment de la part de l'opposition qu'il peut y avoir à ce projet d'enfouissement des déchets.
Oui, ben, comment ça a évolué ? Je dirais que dans cet ouvrage, on a aussi beaucoup parlé de la politique de communication de l'ANDRA. Et alors là, ça a évolué, mais ça a continué d'une manière merveilleuse. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir un site internet cigeo.com, je crois, mais qui n'est pas du tout le site du débat public, puisque le débat public n'est pas encore lancé. Le débat public se situera ailleurs, mais l'ANDRA a son site internet sur le projet qu'elle va donc devoir porter en débat public en tant que maître d'ouvrage. Voilà, la politique de communication, c'est aussi un infobus qui a circulé dans une vingtaine de villages où les habitants ne viennent pas. Et moi-même, je l'ai croisé, mais je n'avais pas envie d'y aller, en fait. Je venais de me faire flasher, je pense, prendre en photo sur la route, alors que j'étais en vélo, en me planquant sous une casquette, et je m'étais fait prendre en photo. Je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. C'est fliqué, quoi, voilà.
D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir, et donc est-ce qu'il y a des moyens sur place d'avoir d'autres informations que celles de l'ANDRA ?
Que celles de l'ANDRA ? Ben oui. Bien sûr. Justement, ce mouvement d'opposition. Alors je peux vous parler du CEDRA, du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, des habitants vigilants, qui est une association qui s'est créée vraiment tout à fait localement suite à l'année 2010, où l'ANDRA avait comme mission de trouver un site de stockage pour les déchets faiblement actifs à vie longue, les FAVL. Et bon, ils n'en avaient pas du tout envie. Donc il y a une association qui s'est créée là. Et il y a aussi, bien sûr, la maison de Bure. Et Bure Zone Libre. Voilà, toutes ces personnes, ça peut être aussi les ODRA, le collectif des élus contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Enfin voilà, il y a aussi Ville sur Terre, pardon, de Michel Guérite, qui interpelle ce Michel Guérite, qui considère que ce projet est aussi flou que fou. Voilà. Et il le sait bien, puisqu'il a été condamné suite à sa participation dans l'opposition à l'installation d'un autre site de stockage FAVL du côté de Soulaine à cette même époque. Donc voilà, il y a un certain nombre de personnes qui se mobilisent et qui effectivement en ont assez, mais c'est même pas le terme, quoi. C'est insupportable cette omniprésence de l'information ou de la communication faite par l'ANDRA, et donc qui cherche à développer cette information et à la rendre accessible au public, au grand public, parce qu'il y a vraiment besoin de parler de ce qui se passe là-bas. Du coup, pardon. Par rapport à cette dynamique de l'opposition, il y a eu Donc c'est un processus en fait qui s'est monté, mais voilà, par cette association, c'est une idée, tiens, on va diffuser le film Into Eternity, alors on organise une séance de projection, et alors pas dans la salle municipale qui est toute nouvelle à Bure et qui a coûté 1 million d'euros, mais dans la salle municipale de Bonnet, et qui est un village à côté de celui de Bure. Et puis c'est aussi il y a un scientifique, un professeur d'université de Lille qui habite dans le coin et qui se dit tiens, il se prépare ce truc-là, il va voir sur le site de l'Andra, il découvre les seuls rapports de recherche. Je dis seul parce que le dernier date de 2009, nous sommes en 2012. Bon, bien sûr, tous ces travaux de recherche sont évalués par la Commission nationale d'évaluation, mais enfin, les travaux de l'Andra de recherche qui sont publiés en tant que tels, non pas les rapports d'activité et de développement durable, mais les rapports sur les travaux de recherche, c'est 2005 et 2009. Voilà, eh bien, il s'est penché sur ces rapports-là.
Comment il s'appelle, ce monsieur ?
Bertrand Tullier, pardon. Bien sûr. ce Bertrand Tullier s'est penché sur ces rapports-là et avec son regard de métrologue, d'expert... sur les questions plutôt effectivement de métrologie, donc dans le secteur industriel, et qui s'est intéressé, qui les a lus avec un regard sur les risques, le risque d'incendie, le risque de production d'hydrogène, quand il y en a plus de 4% dans l'atmosphère, ça explose, et c'est des matières nucléaires quand même à l'intérieur. Sur différents risques et qui s'est posé des questions, ce qui a conduit l'opposition à lancer en mai ou juin dernier ce qu'ils ont appelé le vrai débat public, c'est maintenant. C'est pas 2013, c'était à cette époque-là, donc à la fin du printemps 2012, et une réunion publique où il y a eu la présence de Corinne Lepage et donc une réunion publique où Bertrand Tullier a pu présenter devant peut-être 150-200 personnes ses travaux. Suite à quoi, le comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure, qui n'avait jamais organisé de débat contradictoire depuis sa création en, je crois, 4, après le décret d'autorisation du laboratoire de Bure, c'est-à-dire en 99, hein, depuis cette époque-là, n'avait jamais organisé de débat contradictoire. Et en septembre, il a organisé le premier débat contradictoire en invitant Bertrand Tullier à confronter ses arguments, je dirais, avec Patrick Boissier, qui est aujourd'hui directeur des risques au niveau du laboratoire de Bure, et débat contradictoire qui a été retransmis sur Internet, donc un certain nombre de personnes ont vu, qu'on peut à nouveau regarder, mais juste en partie, hein, sur le site du CLIS, mais on peut aussi trouver sur Dailymotion d'ailleurs l'intervention de Bertrand Tullier seul en ligne. En juin.
D'accord. Et du coup, quelles sont les réactions, enfin, quels sont les positionnements des élus, par exemple, dans la région ?
Maintenant que le débat contradictoire est là, quand même, au moins sur le plan scientifique.
Oui, alors, ça dépend de quel élu on parle. Si on parle du député Bertrand Panchère, de Gérard Longuet, le sénateur du coin, côté Meuse, hein, je vous... Bertrand Panchère a travaillé au niveau du Grenelle et dans l'après-Grenelle sur les aspects concertation, et aussi beaucoup avec son association Décider Ensemble, qui a des financements de différents industriels, notamment d'EDF. C'est une dynamique. Voilà. Il y en a une autre. C'est aussi la dynamique du président du Conseil général de Haute-Marne, puisqu'il y a deux départements qui sont concernés, qui s'appelle Monsieur Bruno Sido et qui lui-même est membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Mais il va à la messe. Il va à la messe, m'a-t-on dit, le week-end dernier. Il va beaucoup à la messe. Je dis ça parce qu'en ce moment, le clergé commence à bouger. Ouais. Et notamment le prêtre de Saudron, qui est un village à côté. Alors lui, il ne sera pas directement là, village de Haute-Marne. il sera pas directement concerné par les puits, les galeries, 300 km de galeries, 5 puits. Il sera pas directement concerné par ça, mais il est visiblement tout à fait concerné, ce village-là, par la transmission du patrimoine foncier local et notamment agricole à l'endroit. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même eu un corbeau qui s'est exprimé dans ce village-là. Et les agriculteurs qui ne parlent pas. C'est l'omerta. Voilà. Après, c'est aussi un autre petit village qui s'appelle Mandran-Barrois, qui est à côté, et qui, là, vient de vivre visiblement un clash au niveau du conseil municipal. Suite à une discussion et donc à une opposition des habitants de vendre, puisqu'il faut quand même que l'Andra achète, hein, la forêt communale. Pardon. Donc ça bouge. Et puis il y a aussi encore à côté un village qui s'appelle Bonnet, qui est, dont le maire est le seul à accepter de répondre aux interviews. Les autres se taisent. Bon, on les a considérés comme, peut-être comme étant des ploucs à une époque, mais enfin ils ne le sont pas et ils sont tout à fait capables de dire ce qu'ils ont à dire. Mais donc voilà, et ce village Bonnet a pris une délibération s'opposant à ce qu'il y ait un stockage et donc à la zone de la ZIRA, la zone d'investigation pour une recherche approfondie, et puisque c'est un village qui est concerné par ce projet-là. Donc comme en Mandran-Barrois d'ailleurs, par les puits et sa forêt aussi, et les galeries.
Mmh. Et concernant les agriculteurs, c'est vraiment que le silence ou est-ce qu'il y a quand même quelques indignés ou en tout cas des résistants justement à l'expropriation,
l'achat
des terres?
Il y a de l'inquiétude. Quelqu'un est, lors de la réunion publique donc organisée par ces différentes associations dont je vous parlais, d'opposition, qui s'est tenue vendredi 23 novembre, voilà. Un jeune est intervenu à un moment donné en disant qu'il s'était adressé au président de la SAFER de Lorraine, la SAFER étant l'organisme qui gère le patrimoine foncier, et que visiblement le président de la SAFER n'était pas au courant qu'il y avait un accord entre l'Andra et la SAFER. Voilà. Alors il n'est pas au courant, mais enfin il y a quand même des publications qui commencent à sortir dans les journaux locaux en disant tiens, il y a du matériel agricole à vendre dans telle ferme. Voilà. Bon.
Et quant à...
Et la FNSEA, pardon, ouais. Ou la FDSEA, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Mais j'ai assisté il y a quelques années à une réunion de... une rencontre d'agriculteurs et... C'est tabou. On est dans le tabou. On est dans le tabou.
Un tabou veut dire silence, comme on observe en ce moment même. Et concernant en fait aussi, parfois les luttes évidemment se combinent parce qu'il y a énormément de points communs, etc. Et ces derniers temps, en fait, on a assisté à justement à une mise en lien de luttes. Vous pouvez nous dire un peu plus justement sur la nouvelle dynamique que peut promettre cette mise en alliance des militants de l'Est.
Effectivement, au moment du petit festival contre la grande poubelle organisé par les opposants début septembre, comme chaque année depuis quelques années. C'est très joli. Et les affiches sont superbes et l'ambiance est superbe. Il y a des spectacles de cirque. On est dans de l'expression, dans du rêve et dans de la discussion et dans du sérieux. Et cette année, eh bien justement, il y avait au cœur de ce festival, cette question des luttes. Et il y avait des gens qui venaient et qui, eux, étaient engagés dans la lutte contre la ligne THT. Cotentin mène, lié à l'implantation de l'EPR de Flamanville. Et effectivement, il y a toute une... On sent que ça grouille de besoin de réflexion. Il y a eu aussi un film qui a été projeté sur toute la lutte Je me souviens plus du nom des réalisateurs, qu'il me pardonne, sur toute la lutte contre l'implantation de la centrale de Plogoff. Et voilà, et sans parler aussi du spectacle de Nicolas Lambert, Avenir radieux, qui là aussi invite à développer son esprit critique, son esprit historique sur les questions nucléaires, quoi. Donc effectivement, la question de la lutte est au cœur de tout. Et pendant longtemps, je me disais, mais par rapport à cette notion de lutte, mais voilà, il y a des gros mouvements là aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes et sur Bure. Bon, il y a eu des grosses manifestations par le passé, c'est vrai, il y en a eu des grosses. Mais c'est tellement. Le temps, il passe et il y a des moments où vraiment on sent que presque le temps s'arrête ou se maintient par cette résistance qu'il y a au niveau de la maison de la résistance. Mais il n'y a pas cette. Il devient presque imperceptible, et Landra pourrait se dire d'ailleurs que finalement il n'y a pas vraiment de lutte, il n'y a pas vraiment d'opposition. Et quelquefois ça m'inquiétait un petit peu, ça m'inquiétait, oui, dans le sens où c'est quand même un projet national qui concerne pas seulement cette région où il y a 5 ou 6 habitants qui, au kilomètre carré, quoi. Mais vu ce qui se passe en ce moment à Notre-Dame-des-Landes et donc toute cette convergence de lutte, on peut se dire qu'effectivement ce projet va être soutenu, d'autant plus que les...
Enfin, soutenu ou contesté.
Contesté, oui. Pardon, oui, contesté. Je veux dire, cette opposition ce projet, l'opposition à ce projet va être soutenue, c'est ce que je voulais dire. Et d'autant
plus... Le projet est déjà soutenu.
et d'autant plus que récemment, le 16 novembre, tout un collectif d'associations, les associations locales liées à FNE sont
France Nature Environnement.
France Nature Environnement, voilà. Ils sont une dizaine, même plus que ça, une quinzaine d'associations à signer. France Nature Environnement, donc les Antennes, Champagne-Ardenne et Lorraine Nature, puisque ce sont les deux régions concernées, mais aussi Fédération, la FNE nationale. Voilà. Et puis après, des tas d'autres qui donc ont signé une lettre adressée au président de la République, datée du 16 novembre 2012, qui se termine par, je vous lis, « Si ce report... » Oui, pardon, excusez-moi. Dans cette lettre, il demande... la séparation dans le temps entre le débat sur la transition énergétique qui commence ce jour, le 28 décembre 2012, et le débat public sur le projet de stockage de déchets nucléaires. Il termine par ces mots: « Si ce report n'était pas acté, les associations signataires, quoique sans illusion sur l'influence du débat public sur le processus décisionnel, seraient dans l'obligation de renoncer à toute participation au débat sur CIGEO pour privilégier le débat sur la transition énergétique. » Voilà. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'opposition dans un débat public, il est loupé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet CIGEO est un projet qui est en train d'être dessiné. Donc il a certaines caractéristiques. Par exemple, tout ce qui est stockage va être en Meuse. En Haute-Marne, il n'y aura pas cet aspect souterrain. Mais comment est-ce que va se dessiner le stockage, par exemple? Eh bien, Landra a confié ce travail à un groupement d'industriels qui s'appelle Gaïa. Et voilà, la déesse de la Terre. Et donc on ne sait pas comment est-ce qu'il va être dessiné exactement, on ne sait pas, il y aura un entreposage à côté, est-ce que ce sera un entreposage définitif ou pas, est-ce que ça servira simplement d'entreposage transitoire avant de descendre les déchets ou pas. Voilà, ils vont mettre en débat public un projet qui va ensuite être discuté. Et c'est leur version première, mais à la fin du débat public, il n'est pas dit qu'à travers le compte-rendu et ensuite le bilan qu'il en sera fait, ce ne sera pas quelque chose d'un peu différent qui émergera, quoi.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, ça reste l'idée de fond. Voilà, à 500 mètres, c'est des galeries et c'est la descente de... La descente de déchets nucléaires, de haute activité à vie longue.
En tout cas, le nom du projet est absolument magnifiquement trouvé, je trouve. C'est CIGEO, c'est-à-dire si la géologie le permet, nous allons enfouir. Bien sûr, de façon réversible, sans qu'on sache ce que ça veut dire complètement, mais voilà, si c'est CIGEO, vraiment nous permet.
comme si on faisait une prière à la géo, comme au dieu.
Vous allez peut-être inspirer une chanson, Cézine.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut espérer? Bien sûr, c'est un peu tôt maintenant de faire des hypothèses, des prédictions et tout ça, mais est-ce qu'on peut espérer quand même des choses de ce débat public, étant donné déjà voilà, un peu le fait que les luttes sur place se ravivent, deviennent fortes, se mettent en alliance, etc. Ou est-ce qu'il faut d'emblée, à votre avis, rejeter et d'y prendre part comme on vient d'entendre de la part de notre première interviewée.
Alors, un débat public, ça interroge aussi la question des acteurs du débat public. Alors, bien sûr, il y a le maître d'ouvrage, l'ANDRA, dans ce cas-là. C'est une évidence. L'ANDRA produit un rapport qui est mis en débat. Et à partir de quoi la discussion s'ouvre. Mais qui est ensuite acteur de ces débats-là? Et donc, qui va se voir proposer par la commission particulière du débat public de faire un cahier d'acteurs, donc d'écrire son point de vue sur le projet? Eh bien, ce sont des associations, ça peut être un industriel, ce sont les chambres consulaires comme les CCI, les chambres d'agriculture, etc., le CLIS bien entendu, du laboratoire de Bure. Voilà, et ça pose aussi la question, donc ça pose la question de savoir cette notion d'acteur, qui s'inscrit dans cette notion d'acteur. Et aussi la question du périmètre. Est-ce que ces acteurs-là, ce sont des acteurs, par exemple FNE? FNE, est-ce que c'est simplement FNE Lorraine et FNE Champagne-Ardenne, ou bien est-ce que c'est FNE Bretagne ou voilà, ailleurs? Le projet étant national, pourquoi pas? À partir du moment où ces acteurs-là, après c'est mon point de vue, si à partir du moment où ces acteurs-là se manifestent et aussi sont en lien avec la commission particulière du débat public, et notamment de leur secrétaire général qui organise des rencontres. Voilà. Mais on l'a vu dans le débat public sur la gestion des déchets nucléaires. D'ailleurs, c'était déjà très orienté sur le stockage en 2005-2006, lancé là cette fois-ci par le ministère, la DGEMP, la Direction Générale d'Énergie et de Matières Premières du ministère de l'Industrie. Et il y avait l'ACRO, par exemple, il y avait Global Chance, voilà, il y avait un certain nombre d'acteurs qui étaient... c'était un débat national sur une politique nationale, mais... Il y a la question aussi du périmètre. Et dans tous les cas, le débat public, il est basé sur des principes qui s'appellent, qui se réduisent en un acronyme et qui se prononcent ÉTIN, équivalence, transparence, argumentation, indépendance et neutralité. Et si il y a autant de cahiers d'acteurs que le volume du débat public, du dossier du maître d'ouvrage, pardon, on peut se dire que le débat s'est bien déroulé. Voilà, et l'équivalence, ça veut dire aussi que si l'ANDRA, par exemple, a envie de faire un petit film, ben pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des acteurs qui auraient la possibilité de faire leur film, et donc aussi une aide pour ça, et faire valoir leurs idées, quoi. Voilà.
Oui, différemment du débat public de 2005-2006, évidemment là, l'ANDRA est directement maître d'ouvrage, alors qu'à l'époque, elle n'était qu'un acteur parmi d'autres.
Exactement.
Un acteur industriel, mais pour un public, je ne sais plus. Et là, en fait, les rôles se renversent. Et il est vrai que selon certains dialogues informels que nous avons pu avoir par des personnes, disons, reconnaissant bien le dossier à l'intérieur de l'ANDRA, ce débat public... évidemment, semble être en tout cas considéré comme une étape administrative, en fait, à affronter. Et puis après, du coup, ce qui pose encore une fois la question de l'utilité même du débat. Est-ce qu'à nouveau, on va pas être face à une opération de communication qui, de toute façon, semble inévitable pour ce maître d'ouvrage, puisqu'il ne peut plus faire autrement? Ou est-ce qu'il y aurait des moyens citoyens de contourner cette fatalité pour en faire de quelque chose vraiment, vraiment efficace, ou en tout cas qui permettrait un débat, même si, bon, la décision, etc. Et là-dessus, du coup, se pose la question de d'une certaine, comment dire, divergence justement qu'on observe en termes de la perception même des, de ceux qui peuvent devenir des acteurs de débat par rapport à ce qui s'était observé en 2005-2006. Puisqu'en 2005-2006, quand le débat public sur les déchets était annoncé, le problème en fait pour la plupart des ONG, c'était de dire que il ne fallait pas séparer les débats, c'est-à-dire le débat sur le PR et le débat sur les déchets ne devaient pas avoir lieu comme des débats indépendants, alors qu'évidemment la question des déchets ne peut pas se discuter sans discuter de l'avenir du programme électronucléaire lui-même. Alors que maintenant, vous venez de faire remarquer, donc en citant cette lettre du 16 novembre, que c'est plutôt la revendication inverse en fait qui est mise sur la table.
Oui.
Ce qui semble un petit peu bizarre quand même, puisqu'on aurait pu quand même s'attendre à l'inverse à nouveau.
D'autant
plus que l'ANDRA elle-même souhaite, semble-t-il, en fait, séparer justement l'organisation de ces deux débats. Que en fait, le débat sur les déchets ne coïncide pas justement avec celui sur la transition énergétique. Donc c'est
Oui. Moi, je dirais que l'ANDRA, elle fait beaucoup d'efforts pour se faire apprécier au niveau local et autant que se peut et également de l'opposition. Mais elle a des objectifs, elle a des impératifs qui sont inscrits dans la loi, donc elle ne peut pas faire autrement que ce qui est inscrit dans la loi, et par exemple qu'au plus tard le 31 décembre 2014 elle doit déposer une demande d'autorisation de création du stockage. Donc il y a un calendrier qui est écrit, qui est inscrit dans la loi, mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle soit pour autant prête. Quand on voit qu'aujourd'hui elle annonce tout récemment qu'elle dispose d'une galerie pour pouvoir expérimenter un creusement avec des tunneliers, galerie de 10 mètres de diamètre, pour pouvoir tester l'utilisation d'un tunnelier, ce qu'elle n'a jamais fait auparavant parce qu'il n'en était pas question, pour des raisons de sûreté. Et donc elle vient juste de l'avoir, et elle est aussi en train de tester le scellement des alvéoles. Évidemment, si on commence le débat public et qu'il n'y a pas de résultat sur ces recherches-là, c'est pas très sérieux. Depuis le temps qu'il en est question, de cette question des scellements, c'est pas très sérieux du tout. Donc ça va assez vite, ce calendrier, il est peut-être... il est très serré, et d'ailleurs, mais c'est pas si grave. Elle dit que dès 2015, elle commencera le creusement. Donc ça peut aller très vite. Bon, voilà, c'est peut-être pas très sûr. D'autant plus que pour en venir à la convergence des luttes, il y a eu. Donc ce vendredi 23, comme vous en parliez tout à l'heure, une rencontre entre ce Bertrand Thuillier et qui a ce regard critique donc sur les aspects sûreté du stockage et des représentants de l'association Destocamine, qui est une association qui demande que soient ressortis les déchets inertes, enfin soi-disant inertes, ils auraient dû être que tous inertes, mais certains ne l'étaient pas, et du coup ça a flambé. La France a fait un essai de stockage souterrain, donc de déchets non radioactifs, et qui s'est ouvert en 99 au moment donné où le laboratoire de Bure obtenait son autorisation, avec l'assurance de la réversibilité. Ce à quoi s'est engagé notamment Pierre-Franck Chevet, qui est maintenant le président de l'autorité de sûreté nucléaire et qui était à l'époque le directeur, je crois, de la DRIR d'Alsace, l'ex-DREAL, pardon. Et j'espère que je n'accroche pas son nom, mais je pense que c'est ça. Et donc, et ce stockage-là, également à 500 mètres sous terre, a donc pris feu au bout de 2 ans et demi et a nécessité 2 mois pour pouvoir l'éteindre. Et aujourd'hui, les déchets sont donc encore dedans, contiennent pour certains du mercure, il y a un risque, et d'autres polluants, il y a un risque de pollution de la nappe phréatique.
44 000 tonnes de déchets.
Oui, seulement. Ça devait être l'objectif annuel, et en fait, ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, les anciennes mines de potasse d'Alsace aussi, alors que ça devait être un moyen de les relancer. Et plutôt que de centaines de salariés travaillant sur le site, il y a aujourd'hui 10 personnes qui sont payées, peut-être à rien faire, par l'État français, qui En outre, paye 5 millions d'euros par an, je crois, pour gérer cette situation donc d'un site qui menace de s'effondrer, les déchets qui menacent de s'ennoyer dans la nappe phréatique d'Alsace et donc de générer cette contamination, ce qui fait qu'aujourd'hui les élus là-bas demandent que les déchets qui ont été enfouis soient ressortis, mais le liquidateur qui est nommé pour gérer la situation, il n'a pas l'air d'être très favorable à ça, et c'est pourtant aussi une grande partie des conclusions du comité de pilotage qui a été mis en place avec un certain nombre d'experts pour savoir ce qu'on faisait de ce site-là. Donc de tout enlever. Et ça traîne du pied sans que les opposants qui étaient donc présents de déstockamine comprennent les raisons.
Donc ça veut dire que même en cas d'accident, c'est pas réversible. Alors que c'est un projet de stockage réversible. C'était un projet de stockage réversible à l'origine.
Voilà. Alors, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas? Mais là, visiblement, c'est une question de volonté.
Ou aussi de technique.
Puisque la puissance publique a racheté ces entreprises, les anciennes mines de potasse et l'entreprise Stockamine. Ça appartient maintenant à l'État. Et ça ne bouge pas. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu de décision de prise d'appliquer la réversibilité. Oui. Ouais. Et juste la petite anecdote, parce que pendant cette soirée-là, on a eu droit à une magnifique comparaison, je dirais, entre cette réalité de ce stockage qui a été testé, qui n'a pas marché, et puis ce stockage qui se prépare, en tout cas, qui repose sur une volonté nationale, semble-t-il, en tout cas inscrite dans la loi. Voilà. Il y a eu une comparaison de fait et le président de la commission, du comité de pilotage, pardon, qui a été mis en place, du comité de pilotage qui a été mis en place, pardon, après cet incendie, et qui a remis plusieurs années après, puisqu'il a remis ses conclusions en juillet 2011, ce président est quelqu'un qui est lui-même président de la Commission nationale d'évaluation sur les travaux de recherche de l'ANDRA, monsieur Pierre Berest. Voilà. Sur les travaux de recherche sur le site de stockage, sur le laboratoire de Bure. C'est étonnant parce que ça pourrait être, je sais pas, une manière de montrer que c'est possible d'enlever des déchets qui sont à 500 mètres sous terre, oui, qu'ils soient nucléaires ou pas. Enfin, ça pourrait être l'occasion, mais visiblement c'est pas le cas.
Mmh. Autrement, dans un autre sens, une manière de tirer la leçon que quand ça sera, en termes de financement, abandonné à l'État, de toute façon, il faut pas trop espérer que la réversibilité, même si c'était techniquement impossible, mais ce qui est
C'est un peu dommage aussi de pas pouvoir espérer dans son état.
J'aurais voulu vous demander, mais peut-être qu'on va s'arrêter là, mais quelle était la situation et quels étaient les choix qui avaient été faits à l'étranger, dans les autres pays, et peut-être notamment dans les pays qui ont arrêté, qui ont choisi d'arrêter le nucléaire, où on peut se dire que c'est plus facile de faire des choix sur ces questions. Peut-être en deux mots.
Alors, on pense immédiatement à l'Allemagne, mais l'Allemagne a malheureusement mis des déchets nucléaires dans une ancienne mine de sel et ils sont sous l'eau. Et ils essayent, eux, de les faire ressortir. Ça coûte très cher, je crois que c'est en train de le faire.
Donc la réversibilité, on a l'impression que 2 à 3
c'est
milliards...
C'est même nécessaire, vu qu'il y a à chaque fois des accidents.
Oui, on peut se dire ça, oui. Oui, que c'est pas miraculeux, quoi. C'est indispensable quand on se lance dans ce genre de projet, de mettre des choses sous la terre où il y a quand même des mouvements, même si on a l'impression que ça bouge pas trop. 2 à 3 milliards d'euros par an pour... 2 à 3 milliards d'euros pour déstocker les mines d'as en Allemagne. Mais bon, et sinon, par rapport au stockage donc de déchets nucléaires de haute ou moyenne activité à vie longue, en fait, c'est à l'état de recherche. Il y a et quelquefois, le laboratoire se trouve la plupart du temps d'ailleurs, à un endroit différent de l'endroit où il va y avoir le stockage, ce qui n'est pas le cas en France. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de déchets qui ont été descendus. En Finlande, ils sont au Hokkaido, ils sont les plus, ils sont les plus avancés en Europe, mais ils n'ont pas commencé à descendre des déchets. Et on a aux États-Unis, il y a le site de Yucca Mountain qui a été arrêté au moment où le président Obama est arrivé pour la première fois au pouvoir parce que ça coûtait extrêmement cher et il continue à ils continuent à faire des recherches. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'orienter vers un autre procédé, je dirais, pour ces déchets-là, parce que malheureusement, s'il y en avait beaucoup, il semble qu'il y ait une unanimité voilà, pour ce procédé, mais on pourrait. C'est d'ailleurs étonnant, je trouve, parce qu'il y a les entreposages, etc. Donc c'est un peu l'union fait la force, quoi. Mais donc les États-Unis continuent à chercher et ont un site qui s'appelle WIPE, qui là est sur les déchets nucléaires, qui là, c'est, je crois que c'est peut-être bien si ils ont commencé à ils ont mis des déchets militaires.
D'accord. Bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Camille. Merci, Céline.
Merci, Céline. Oui. Merci à tout le monde.
Merci à vous aussi et c'est bon, ça va être diffusé sur Paris, mais je crois que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde en France. Bah,
on pourra retrouver l'émission donc en ligne sur notre site internet Zoom Écologie, où on essaiera de mettre également des liens de renvoi vers des sites d'information sur ces sujets.
Merci.